Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un mot pour les enfants. Nous fêtons aujourd'hui tous les saints du ciel, alors non seulement ceux qui sont canonisés, par exemple vos saints patrons, et tous les saints que vous aimez particulièrement, mais aussi tous les saints inconnus, tous ceux qui sont morts dans l'amitié avec Dieu, et qui maintenant sont au ciel, et qui voient Dieu face à face dans sa gloire. Alors, que font les saints et que font les anges dans le ciel? Si vous avez bien écouté la première lecture, les enfants, vous aurez entendu qu'ils adorent Dieu, qu'ils se prosternent devant l'agneau en disant « Amen, bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu dans tous les siècles des siècles. » Les saints adorent Dieu, ils adorent notre Seigneur Jésus, ils voient toute sa gloire et ils en rayonnent eux-mêmes. Ils sont en pleine communion avec Dieu. Vraiment, cela doit être impressionnant et merveilleux. Et vous aussi, chers enfants, c'est votre mission. Vous pouvez déjà faire la même chose que les saints du ciel. Vous aussi, sur terre, déjà, vous pouvez adorer Dieu. Vous pouvez lui rendre gloire. Vous pouvez le remercier. Bien sûr, il y a une différence avec le ciel. La différence, c'est que nous ne sommes pas encore dans la gloire. Mais finalement, ce n'est peut-être pas si grave. Car depuis que vous êtes baptisé, depuis que vous avez été marqué du sceau de Dieu à votre front, eh bien vous pouvez participer, vous aussi, même sur terre, à ce que font les saints et les anges au ciel. Vous pouvez adorer Dieu avec eux, et notamment grâce à l'Eucharistie. Tout à l'heure, quand le prêtre va élever le corps du Christ, ou quand il va se retourner avant la communion pour dire « Voici l'agneau de Dieu », eh bien vous pouvez être sûr que tous les saints du ciel et que tous les anges seront prosternés aussi, comme vous, devant l'Eucharistie, et qu'ils l'adoreront. Et donc vous pourrez imaginer, c'est pour ça qu'on met de l'encens aussi à la messe, imaginez toute cette gloire de Dieu, cette prière des saints qui monte et qui vient adorer notre Seigneur présent dans l'Eucharistie. Nous sommes vraiment, pendant la messe, en communion avec le ciel. Alors voilà, pour vous aider à communier, les enfants, pensez bien que tous les saints du ciel, tous ceux de votre famille qui déjà sont au ciel, qui sont morts et qui sont au ciel, eh bien sont présents avec vous et qu'ils adorent avec vous notre Seigneur dans l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, l'Église nous invite aujourd'hui à fêter tous les saints. Ce culte rendu n'est pas simplement une pure louange que nous élevons vers le Christ et vers les saints, mais c'est aussi une prière de demande, pour que, avec l'intercession des saints, nous puissions cheminer, nous aussi, vers la gloire du ciel, nous qui sommes l'Église militante. Et ceci est l'un des aspects de la communion des saints. Vous aurez remarqué que l'introïte et l'épître, enfin la première lecture, nous parlent essentiellement de la béatitude céleste, tandis que les autres textes de la messe d'aujourd'hui nous parlent plutôt, eh bien, de nous, nous qui cheminons sur terre. L'Évangile, l'offertoire, la communion. Et vous aurez peut-être aussi remarqué qu'il n'y a presque rien sur l'Église souffrante, sur les âmes du purgatoire, parce que c'est demain que nous vivrons avec eux la communion des saints. Et nous voyons donc que la liturgie de ce jour nous montre le but à atteindre, la gloire du ciel, et le moyen pour suivre ce but, pour l'atteindre, qui sont les béatitudes, la loi nouvelle proclamée par le Christ sur cette montagne. Ce serait une incompréhension de penser que les béatitudes, cependant, ne sont qu'un moyen en vue du ciel. Ce serait réducteur de penser que les béatitudes seraient une sorte de passage obligé qui nous ferait subir la pauvreté, qui nous ferait subir les larmes, la faim, les persécutions, en attendant enfin la paix du ciel. Plus qu'un moyen, les béatitudes nous décrivent ce qu'est l'authentique espérance chrétienne. En effet, si nous ne comprenons l'espérance chrétienne que comme l'espoir d'être un jour récompensé pour nos bonnes actions, alors nous prêtons le flanc à la critique, notamment la critique des philosophes athées. Au contraire, si nous percevons combien les béatitudes sont une école de bonheur, d'intimité avec Dieu dès maintenant, nous saurons répondre à ces philosophes athées et nous saurons discerner combien ces béatitudes hâtent la venue du règne de Dieu. En effet, l'espérance chrétienne n'est pas d'abord l'attente d'une récompense merveilleuse, qui serait le fruit d'une vie où on aurait bien souffert, bien subi. Ce n'est pas de vivre malheureux sur terre, en s'imposant des règles bien exigeantes, en réfrénant nos capacités humaines et en attendant un bonheur promis. Ce n'est pas ça l'espérance. Si nous réduisons l'espérance à une telle conception, nous faisons justement le jeu des penseurs athées qui ont cherché à ridiculiser l'Église sous prétexte qu'elle asservissait les hommes. Je pense là à ceux que nous appelons communément les maîtres du soupçon. Et en caricaturant, légèrement, je pense à Marx qui accusait l'Église d'asservir politiquement l'humanité, à Nietzsche qui l'accusait d'annihiler toute ambition humaine, et puis à Freud qui l'accusait de refouler toute passion. N'est-il pas alors insensé, effectivement, de croire en un évangile qui broie notre humanité ? N'est-il pas insensé de s'en remettre à une espérance hypothétique qui est incapable de nous rendre heureux ici et maintenant ? Ces trois attaques contre l'Église ont eu leur efficacité dans l'Occident chrétien, un Occident teinté soit de jansénisme, soit au contraire d'un pélagianisme moral qui n'était plus qu'une ossature souvent. Et piqués dans leur orgueil, bien des chrétiens peu fervents ont en profité pour s'échapper de toute loi morale et ont admis qu'effectivement ils avaient peut-être été insensés. Ils ont donc rejeté l'espérance théologale du règne de Dieu pour se jeter dans l'espérance terrestre du règne de l'homme. Et souvent, comme ces hommes étaient moins épris d'absolu que Nietzsche ou que Marx, finalement, eh bien, ils se sont contentés des plaisirs faciles de la société de consommation, d'Halloween. Mais voilà sans doute qu'ils n'avaient pas perçu, justement, combien les béatitudes étaient une école de bonheur, déjà, pour cette terre. En effet, les béatitudes sont bien une école de bonheur. La loi de sainteté que promulgue le Christ sur le mont des béatitudes est une règle de vie qui va déployer les capacités de notre humanité, qui va dilater notre cœur. Oui, vouloir vivre les béatitudes conduit à la sainteté et au bonheur dès ici-bas. Si vous avez bien écouté les béatitudes, vous avez vu que pour la première et la dernière, nous sommes au présent. Oui, si nous sommes pauvres de cœur, alors le royaume des cieux est déjà parmi nous. Oui, nous pouvons déjà être dans la joie et l'allégresse aujourd'hui, malgré les persécutions. Et l'exemple des saints suffit finalement à démontrer l'incohérence des maîtres du soupçon. Rappelons-nous par exemple la lettre de saint Paul, lorsqu'il écrit à Philémon. Dans cette lettre, il demande à Philémon de recevoir Onésime, qui était son ancien esclave, de le recevoir désormais comme un frère. Nous voyons là comment le christianisme, progressivement et paisiblement, va rénover les civilisations habituées à l'esclavage. Et en voyant cela vraiment, nous percevons que l'espérance chrétienne n'a rien à envier à la doctrine marxiste qui, elle, a fait des millions de victimes. Nous pouvons regarder aussi saint Benoît, qui par sa règle pleine d'humilité et d'obéissance, a révolutionné l'Europe, l'a éduquée. Vraiment, quelle puissance édificatrice du mouvement bénédictin. Non, l'espérance chrétienne n'a décidément rien à envier à la volonté de puissance chère à Nietzsche. Enfin, regardons comment saint Jean-Paul II, par exemple, a montré la beauté de la sexualité humaine. Regardons aussi comment tous les saints se sont servis de leurs passions, de leurs désirs les plus intimes, pour en faire des moteurs vers la sainteté. Saint Jean Bosco et son talent pour le jeu et son amour pour les enfants, par exemple. Saint Vincent de Paul et son désir d'ascension sociale dont il s'est servi, eh bien, pour le bien des riches et des pauvres. Vraiment, nous pouvons voir à ces exemples que l'espérance chrétienne n'a rien à envier à la libération des passions que nous propose Freud. Alors oui, nous voyons que les saints, en rayonnant de la loi nouvelle des béatitudes, ont élevé le monde et ils en étaient heureux. Oui, nous comprenons à l'école des saints que l'espérance chrétienne rend dès à présent heureux. Et c'est valable aussi pour nous qui avons reçu au baptême, comme le dit Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, nous avons reçu au baptême un don qui est une espérance crédible. Et finalement, les insensés Les insensés, ce sont bien ceux qui méprisent les saints. Ce sont ceux qui méprisent les chrétiens, qui cherchent à vivre les béatitudes, quitte à tout perdre. Et c'est ce que nous allons chanter tout à l'heure dans l'offertoire, juste après le credo. Alors bien, chers frères et sœurs, les béatitudes ne sont pas seulement un moyen pour accéder à la gloire du ciel. Si on les réduit à cela, alors nous risquons de justifier la pensée des maîtres du soupçon et de notre monde post-chrétien. Non, les béatitudes sont aussi une fin pour tout chrétien. C'est en cherchant à les vivre chaque jour davantage que le Christ grandira en nous, que nous lui serons conformes et que nous serons donc des saints. C'est le Christ lui-même qui a parfaitement vécu les béatitudes depuis sa naissance humble et pauvre jusqu'à sa mort injuste. Oui, il s'est fait pauvre, il a pleuré, il a pardonné, il a eu faim et soif jusque sur la croix. Alors nous, espérons-nous les richesses et la tranquillité ? Non. Faudra-t-il pleurer ? Probablement. Faudra-t-il souffrir ? Sans doute. Faudra-t-il être persécuté ? Peut-être. Mais dans toutes ces épreuves, le Christ non seulement nous promet la gloire et une juste récompense, mais il nous promet déjà sa paix, sa présence et son royaume. Et il n'y a pas de bien plus grand dès maintenant. Alors ne craignons pas de méditer ces béatitudes, ne craignons pas de les vivre. Nous sommes forts de la communion des saints, de tous les saints du ciel et de la terre. Et ainsi, avec ces béatitudes, nous pourrons dès maintenant atteindre la sainteté et le bonheur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.